Bien, bonjour et bienvenue à tous. J'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui au séminaire le professeur Jean-Baptiste Rosy, qui, après avoir été maître de conférence à l'université d'Aix, qui est l'une de nos meilleures universités, est depuis plusieurs années à présent professeur à l'université de Paris 4 Sorbonne, où il enseigne à la fois l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine, mais aussi les questions les plus vives de la métaphysique et de l'épistémologie. Jean-Baptiste Rosy est l'un des rares philosophes français, trop rare à mon sens, à maîtriser à la perfection l'histoire de la philosophie au plus haut niveau de la spécialisation et à combiner cette excellence avec des compétences de premier plan dans les domaines les plus contemporains, les plus internationaux, souvent les plus difficiles aussi, de l'épistémologie et de la métaphysique. C'est assurément l'un de nos meilleurs spécialistes de l'œuvre de Leibniz. Il est d'ailleurs directeur à Paris 4 du Centre d'études leibnizienne. Il est par ailleurs responsable de l'école doctorale Concept et langage. On lui doit notamment, outre de très nombreux articles, un livre que je trouve particulièrement remarquable, La doctrine leibnizienne de la vérité, aspect logique et ontologique, paru chez Vrin en 2002. J'ajouterai qu'il est aussi très impliqué dans la vie universitaire française et j'indique au passage un livre qu'il avait rédigé en 1999 avec le professeur Laurent Jaffraud, L'école désœuvrée, la nouvelle querelle scolaire. Donc je le remercie chaleureusement, en notre nom à tous, donc d'avoir accepté mon invitation à parler au Collège de France. Et je suis donc impatiente, vous aussi j'en suis sûre, de l'écouter, nous instruire sur la question ô combien passionnante et philosophiquement, mais pas seulement, importante, qu'est celle de la présomption dans ses relations avec la justification. Il n'est pas étonnant que ce soit un leibnizien qui s'attelle à cette question, donc de l'usage philosophique d'une modalité juridique. Cher Jean-Baptiste, à vous.
Merci, je remercie vivement, chaleureusement, le professeur Claudine Tiercelin de m'avoir donné l'occasion de présenter ses travaux aujourd'hui. Je vais peut-être avant de commencer vous dire quelques mots sur l'origine de mon exposé et du sujet qui nous occupera aujourd'hui. Il s'agit d'abord d'un sujet qui est à la mode dans sa formulation générale, chez les épistémologues. Encore récemment, j'ai eu une conversation avec un épistémologue britannique, Duncan Pritchard, qui m'a dit qu'il s'intéressait particulièrement en ce moment aux modalités juridiques et aux liens entre l'épistémologie et les règles du droit. Donc peut-être presque une mode qui commence, je ne sais pas encore, mais... Alors, évidemment, quand il y a une mode qui commence et qu'on y est, c'est à la fois une bonne nouvelle parce qu'on se dit qu'on est plutôt dans la question. Puis c'est pas non plus seulement une bonne nouvelle parce que, comme disait Pascal, quand tous vont vers le débordement, nul n'y semble aller. En tout cas, il y a certainement quelque chose qui est plus intéressant, c'est que parmi les épistémologues, et notamment ceux qui s'intéressent aux modalités épistémique et à la sémantique des modalités épistémiques, il y a dans les pratiques juridiques et dans la vie du droit, disons, une réserve d'exemples intéressants. Et ils sont intéressants parce que, à la fois, ce sont des exemples attestés qui font partie de nos interactions sociales et qui, donc, ne vivent pas simplement dans l'imagination des philosophes qui travaillent dans un fauteuil. Et d'autre part, ce sont souvent des exemples extrêmement complexes, hein, notamment des exemples dans lesquels on a une situation cognitive et épistémique qui est plus complexe que celle qu'on utilise d'habitude quand on dit, par exemple, je vais faire la sémantique du mot peut-être, ou il se peut que, ou tout ce que, d'après ce que je sais, vous voyez, ce sont les exemples que les épistémologues emploient d'habitude. Donc c'est la raison pour laquelle cette question, à mon sens, mérite pleinement d'être traitée, ou ce type de question. Et là, encore une fois, il y a tout un travail assez technique qui est un travail sémantique, qui est tout à fait passionnant, mais ce n'est pas du tout ce genre de travail que je voudrais évoquer aujourd'hui. Mon but est plutôt, concerne plutôt la notion même de justification, et je vais vous expliquer pourquoi je me suis donné ce but. En fait, il y a dans cette intention une forme de néo-leibnizianisme, Claudine Tiercelin l'a indiqué. Leibniz était un juriste et il était persuadé que le droit était un phénomène ancien, robuste, profond, probablement plus vieux que la philosophie et qui existera quand qui existe là où la philosophie n'existe pas et qui existera quand la philosophie n'existera plus. Et que par conséquent, les philosophes avaient tout à fait intérêt à s'y intéresser, avaient de bonnes raisons de s'y intéresser, pardon. Un autre aspect, peut-être plus contingent et pour vous plus anecdotique, mais pour moi plus important, c'est que dans ce contexte-là de métaphysique néo-leibnizienne, un peu dans le contexte de mon enseignement, un jour, un de mes doctorants, a proposé qui s'appelle Felipe Bravo, a proposé d'essayer d'appliquer la présomption à une question de philosophie des mathématiques et de métaphysique, même des mathématiques, on peut dire. Son idée était que, vous savez, il y a dans la philosophie des mathématiques aujourd'hui une école extrêmement active qui essaie de s'appuyer sur la notion de fiction et de résoudre des problèmes traditionnels. Le fameux problème de Platon, dont vous avez entendu parler peut-être à travers le livre de Marco Panza en français, et d'essayer d'aborder ces problèmes, le statut métaphysique des entités abstraites et parmi les entités abstraites des entités mathématiques, à l'aide de cette notion de fiction. Il y a plusieurs écoles dans ce fictionnalisme mathématique, mais chacune de ces écoles rencontre un certain nombre de problèmes, et la proposition de ce doctorant était de faire jouer à la présomption, en gros, le rôle que la fiction jouait chez les fictionnalistes, d'où l'idée d'un présomptivisme, vous voyez, qui serait à la présomption ce que le fictionnalisme est à la fiction. Nous avons travaillé, je veux dire, ce thème, et j'ai rapidement me suis rendu compte qu'on avait besoin d'une élaboration de la notion de présomption pour espérer aboutir à quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans l'état d'une recherche qui pouvait donner lieu à un article, mais qu'en revanche, il y avait un champ de recherche qui m'a paru assez vite, assez passionnant, et c'est finalement ce champ de recherche dont je voudrais essayer de vous donner un aperçu aujourd'hui. Alors, l'idée de cet étudiant, Felipe Bravo, était de penser quelque chose comme une présomption d'existence, vous voyez, pour des entités abstraites. Mon idée aujourd'hui est plutôt d'insister sur le fait que lorsqu'il y a des cas reconnus de justification difficile, ce que j'appelle les cas de justification difficile, ce sont les cas dans lesquels on est dans une situation où on a envie de donner une justification, mais en même temps on s'aperçoit que cette justification est, pour des raisons profondes, pas seulement contingentes, difficile à donner. Et dans ces cas-là, on peut éventuellement envisager la présomption comme un candidat pour donner cette justification. Et l'exemple que je donnerai, c'est un exemple classique depuis les travaux de Bogossian, c'est l'exemple du modus ponens, c'est-à-dire d'une règle d'inférence, de la règle la plus simple de la logique pour laquelle Bogossian a écrit en disant ben voilà, c'est une règle pour laquelle il est extrêmement difficile de donner une justification, c'est-à-dire les raisons que nous avons de tenir cette règle pour valide ou de l'employer. Et nous ne pouvons pas tout simplement donner facilement ces raisons, parce que toutes les fois qu'on donne ces raisons, on emploie cette règle, comme vous vous en doutez. Donc, mon idée, et c'est le point que je traiterai in fine, à la fin de cet exposé, c'est de montrer comment on peut envisager qu'une inférence, une règle d'inférence comme le modus ponens, c'est un cas, lorsqu'on cherche à le justifier, non pas quand on l'exerce, mais quand on cherche à le justifier, c'est-à-dire quand on en a une méta-représentation, une représentation philosophique, c'est un cas approchant la présomption. C'est un cas qu'on peut éclairer par la notion de présomption. Donc cet exposé porte sur la présomption comme modalité juridique. Et j'insiste sur ce point parce qu'on emploie le terme de présomption dans un sens ordinaire, hein, quand on dit par exemple « je présume qu'il viendra ». Et lorsqu'on dit « je présume qu'il viendra », on veut dire « il viendra peut-être » ou « d'après ce que je sais de lui, il viendra ». Et dans le sens juridique, vous voyez, on a des cas ou des contextes, comme on dit, qui sont assez différents. Et d'ailleurs, vous avez sur cette diapo ici, j'ai donné les paraphrases possibles, de même que j'ai paraphrasé « je présume qu'il viendra » en « il viendra peut-être ». J'ai paraphrasé un cas de présomption juridique. Hein, un enfant né dans le mariage est présumé légitime. Voilà une présomption juridique. On ne peut pas la paraphraser en disant un enfant né dans le mariage est peut-être légitime. Ou on ne peut pas la paraphraser en disant d'après ce que je sais de lui, un enfant né dans le mariage. Donc ça veut bien dire que la notion même de présomption ou la modalité de présomption telle qu'elle est employée ici est différente dans son fond, dans sa signification. Et par conséquent, si nous voulons représenter ce qu'elle signifie dans un contexte sémantique, on devra faire appel à des moyens et à une représentation différente. Alors, sur la diapo que j'ai donnée ici, vous avez trois paraphrases possibles de cette présomption. Chacune de ces paraphrases, j'y reviendrai tout à l'heure, donne un aspect, n'est-ce pas, de la présomption juridique. Il y a dans la présomption juridique un élément de preuve qui apparaît dans la première paraphrase. En l'absence de preuve du contraire, nous devons faire comme si un enfant était le fils ou la fille de son père légitime. Il y a, deuxièmement, dans la présomption juridique, un aspect prescriptif qui apparaît bien dans la deuxième paraphrase. S'il faut prendre une décision juridique qui requiert la filiation, on devra considérer, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas simplement un souhait ou un optatif, c'est pas simplement un préférable, c'est il faut, on devra considérer qu'un enfant est toujours le fils ou la fille de son père légitime, sauf preuve du contraire. Et troisièmement, il y a dans la présomption au sens juridique, c'est le troisième élément, un élément qui est cette fois-ci une référence à un état du droit, ce que j'appelle la doctrine d'arrière-plan, c'est-à-dire que pour qu'une présomption soit valide, il faut qu'elle existe au sens propre, selon la coutume d'existence des présomptions, c'est-à-dire non pas dans l'espace et dans le temps comme un objet matériel, mais à l'intérieur d'un digeste, d'un code ou je ne sais quelle collection des décisions de ceux qui sont sources de droit, les juges ou les députés ou que sais-je encore. Il faut, autrement dit, que la présomption, celui qui pourra se référer à la présomption se référera non seulement à une pratique, mais également à un corpus, une doctrine, appelons-le une doctrine, qui l'autorise. Et c'est cette doctrine autorisant la présomption qui m'intéresse particulièrement parce que je pense que c'est elle qui peut être une source de justification, disons, évidentielle, augmentée, c'est-à-dire une source de justification et de méta-justification exportable de la sphère du droit vers la sphère de la science. Alors, vous voyez, cet aspect, disons, de doctrine d'arrière-plan est présent très clairement dans la troisième paraphrase. Parmi les présomptions applicables en droit français figure la présomption de filiation légitime. Donc, cette idée que la présomption figure dans le droit, n'est-ce pas, est un point tout à fait fondamental. Alors, j'ai parlé, en commençant, de Leibniz. Il se trouve qu'effectivement, Leibniz est un philosophe qui a été, pendant toute sa carrière, travaillé par cette idée de présomption, au point que, dans certains textes, il en fait la théorie. C'est jamais une théorie complètement construite, mais il y a rarement des théories complètement construites chez Leibniz, mais c'est quelque chose qui est toujours présent, et que les spécialistes de Leibniz ont pris l'habitude d'entendre comme une sorte de petite musique de fond, je dirais, et une petite musique de fond tellement présente que, comme parfois la musique de fond, on finit par ne plus y prêter attention, de sorte qu'il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, d'études approfondies de cette question de cette question chez l'ami. C'est pourquoi je prends la peine de vous donner les aspects principaux de cette présomption. L'idée de l'ami, c'est donc qu'on doit faire un usage de la présomption en dehors de la jurisprudence, en dehors du droit, mais à la manière du droit. Et je mentionne trois champs dans lesquels cette présomption est utilisée par Leibniz. Dans la philosophie morale, souvent, dit-il, nous avons des délibérations autour de ce qui est préférable ou de ce qui est le bien pour nous ou de ce qui est le bien dans une situation concrète donnée. Et dans ces cas-là, eh bien, évidemment, entre ce bien que nous sommes capables de, qui nous est accessible, que nous sommes capables de penser, et le bien tel qu'il est en soi, il y a peut-être un gap, comme on dit aujourd'hui, peut-être un écart, et cet écart, nous devons le franchir par la présomption, c'est-à-dire nous devons supposer, d'un point de vue de philosophie morale, qui est un point important, que celui qui aurait fait tous ses efforts, intellectuellement parlant, pour se représenter le bien apparent dans les meilleures conditions épistémiques, aurait une présomption que c'est le bien, n'est-ce pas ? Aurait une présomption que c'est le bien, de telle sorte que si, faisant cela, il fait le mal, comme ça arrive parfois, en raison des situations latérales en philosophie morale, eh bien, ce mal ne lui est pas, à proprement parler, imputable. Le deuxième champ dans lequel Leibniz emploie beaucoup la présomption, c'est dans la théologie naturelle, et ce point a été davantage étudié, je vais y revenir dans un instant, dans ce que certains d'entre vous ont dû étudier, le complément que Leibniz a donné à la preuve dite a priori, c'est-à-dire à la preuve d'Anselme. La preuve d'Anselme étant que, d'après Leibniz, si Dieu est possible, alors il existe. Anselme aurait établi ce conditionnel-là, et à charge pour ses successeurs d'établir en quelque sorte la prémisse, c'est-à-dire si Dieu est possible. Et pour établir que si Dieu est possible, Leibniz a essayé toutes sortes de voies, n'est-ce pas ? Et une des voies qu'il a explorées, c'est la voie de la présomption, en proposant que tout concept a, en quelque sorte, lorsqu'il est concevable, indique, a pour lui une présomption de possibilité, c'est-à-dire la chose qui tombe sous ce concept est possible. Ce point est important, tout simplement parce que dans la métaphysique récente, on fait un usage, et dans la philosophie de l'esprit, un usage constant des arguments dits arguments de concevabilité, c'est-à-dire des arguments qui ont pour nous les philosophes un avantage, c'est qu'ils nous permettent de partir d'une prémisse épistémique et de conclure à une conclusion, d'aller vers une conclusion métaphysique, c'est-à-dire une conclusion plus forte. Ce sont des arguments qui sont aussi controversés, qui ont été beaucoup employés, comme vous le savez, en philosophie de l'esprit, notamment par Chalmers. Et là, on a vraiment, un vrai champ d'investigation, à savoir est-ce que la présomption peut jouer dans cette affaire-là un rôle important. Je le mentionne parce que ça n'est pas le point sur lequel je veux insister aujourd'hui. Et enfin, le dernier point que Leibniz a mentionné, c'est ce point qui, à mon sens, est celui que j'aimerais développer davantage, qui concerne l'épistémologie des lois de la nature et des espèces naturelles. Et Leibniz, alors là, c'est plutôt quelque chose qui relève de l'habitude de langage, qui relève d'une sorte de... Je ne dirais pas que c'est un inconscient philosophique ou un non-dit, parce qu'il arrive qu'on ait des textes dans lesquels seule la chose est explicitée, mais... Voilà, il dit présomptiver. Les lois de la nature s'appliquent présomptiver. Et c'est quelque chose d'assez étrange que, à mon sens, les historiens n'ont pas mentionné et sur lequel j'aimerais également réfléchir avec vous. Alors, concernant cet ensemble-là, vous voyez, je ne veux pas faire un exposé d'histoire de la philosophie, je veux simplement insister sur cet enracinement dans l'histoire de la philosophie. Et le deuxième point, je vais simplement vous donner deux petits éléments de concernant les deux derniers points, l'argument de théologie naturelle et l'argument de philosophie des sciences de la nature. Concernant la théologie naturelle, vous avez cet article-là de Robert Adams, qui est un article absolument passionnant de 1988, qui porte sur cette présomption d'existence, la présomption d'existence. Et c'est d'ailleurs en lisant et en travaillant cet article que je me suis convaincu que la tentative de mon doctorant Philippe Bravo, tentative qui consistait à dire qu'on a une présomption d'existence relativement au nombre, par exemple, ou aux espaces vectoriels, tentative qui consistait en quelque sorte à donner une version renouvelée de ce qu'on appelle les arguments d'indispensabilité, fondée sur la présomption. C'est en lisant cet article, vous voyez qu'il parle de tout à fait autre chose, puisqu'il parle de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est en lisant cet article que je me suis convaincu que l'affaire était un petit peu plus complexe que ce qu'on avait d'abord pensé. Cet article, vous voyez, je le présente très volontiers en disant qu'Adams a voulu faire avec Leibniz, d'une certaine manière, ce que David Lewis avait fait avant lui brillamment avec Anselme dans un autre article que vous avez ici, hein, qui est un article extrêmement célèbre d'Anselme. Alors, c'est un point qui peut intéresser ceux qui veulent se pencher sur l'histoire récente de la philosophie analytique, puisque dans cet article de 1970, Anselme Lewis a essayé d'évaluer en quelque sorte la preuve a priori. Et il y a deux points qui intéressaient alors David Lewis particulièrement. C'était d'une part, qu'est-ce qui est modal? Est-ce qu'on peut transformer, est-ce qu'on peut présenter la preuve d'Anselme en faisant la part de manière très claire entre les énoncés modaux et les énoncés qui ne le sont pas? Est-ce qu'on peut entièrement la réduire à des énoncés non modaux? Évidemment non. Et deuxièmement, une fois qu'on a fait ce travail, quel est le problème, s'il y a un problème? Et bien entendu, il y a un problème, hein, je vous rassure. Et le problème était, pour David Lewis, que tout simplement la preuve d'Anselme donne un privilège à l'actualité. Et ce privilège, on peut le comprendre d'un point de vue épistémique, puisque nous vivons dans notre propre monde épistémique, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas lui donner de sens d'un point de vue métaphysique. C'est-à-dire que, ou bien on est actualiste, on pense que seulement ce qui est actuel existe, mais à ce moment-là, ça n'a pas de sens de dire que l'actuel a un privilège. Il n'a pas de privilège sur autre chose, puisqu'il n'y a que ce qui est actuel qui existe. Donc. Ou bien on n'est pas actualiste, on pense qu'il y a un monde actuel et des mondes possibles, mais à ce moment-là, il n'y a pas de sens à dire que le monde actuel a un privilège sur les autres mondes. Hein. Et c'est cette thèse de la légalité ontologique ou de l'égalité métaphysique du possible sur l'actuel que David Lewis a véritablement formulée dans cette critique d'Anselme, dans cet article. C'est tout à fait lumineux, je vous recommande de le lire, et dans lequel il affirme d'une façon très nette la thèse dite de l'indexicalité de l'actualité. Hein. Et cette thèse, elle signifie exactement cela. Je cite ce passage parce que, évidemment, Robert Adams, qui est un théologien, lui, qui est impliqué dans la preuve de Dieu d'une manière un petit peu différente, puisqu'il aimerait, quant à lui, qu'elle soit conclusive, Robert Adams, en début de cet article, cite l'article de David Lewis et indique qu'il est, pour ainsi dire, qu'il veut faire avec Leibniz ce que Lewis a fait avec Anselme. Et d'ailleurs, il fait à peu près la même chose. Il indique que selon lui, la preuve n'est pas conclusive et que nous n'avons pas de raison de supposer qu'il y a une présomption d'existence pour chaque élément, pour tout ce qui est concevable. Hein. Nous n'avons pas de raison de penser qu'il y a une présomption de possibilité, disons, ou plus exactement de fonder un argument de possibilité sur la présomption. Alors, il donne un certain nombre de raisons. Je ne vais pas vous les donner, j'avais prévu de vous les donner, mais pour avancer un petit peu, je ne vais pas entrer dans le détail. Disons que l'argument principal est que si on a une présomption en faveur, par exemple, d'un dieu nécessaire, on doit aussi avoir une présomption égale, par exemple, par rapport à un concept qui dirait qu'un dieu nécessaire ou que Dieu n'existe pas. Ou bien on doit avoir aussi une présomption égale par rapport à d'autres concepts qui sont incompatibles avec le Dieu nécessaire. Par exemple, je peux dire une forme nécessaire existe. Et si la présomption vaut pour Dieu, la présomption vaut aussi pour la forme au sens platonicien, mais on ne peut pas à la fois avoir l'existence d'un Dieu nécessaire et d'une forme nécessaire, puisque ce n'est pas la même chose et en même temps c'est incompatible. Donc avec ce genre d'argument, Adams conclut que la présomption de possibilité n'est pas une bonne voie, n'est pas une voie intéressante. Et pour nous, il me semble que c'est un élément intéressant parce qu'il faut arriver à dépasser ce point si on veut l'utiliser dans la métaphysique, disons dans ce sens-là, dans la métaphysique dure, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut véritablement un travail, disons, modal, important pour savoir quelle est la différence entre présumer une possibilité, présumer une nécessité. Et là, on se retrouve devant des nuances techniques qui sont complexes, notamment la question de la portée des quantificateurs, qui donne des éléments, des situations, des arguments tout à fait différents. C'est simplement le point que je voulais indiquer. Donc, j'ai, pour ces raisons-là, laissé de côté ces aspects métaphysiques durs, n'est-ce pas, et je me suis intéressé à la justification, et je m'y suis intéressé pas seulement parce que c'était un problème d'épistémologie, mais pour une autre raison, qui est une manière de faire un petit pied de nez aux Leibnizien aussi, aux historiens de la philosophie, tout simplement parce qu'il y a des textes de Leibniz dans lesquels Leibniz envisage, à l'aide de la notion de présomption, quelque chose qui partage un air de famille avec des problèmes que les philosophes d'aujourd'hui connaissent bien, notamment les paradoxes liés à l'application des règles, hein, les paradoxes que certains d'entre vous connaissent. J'ai eu une certaine satisfaction, je dois le dire, en trouvant des textes latins de Leibniz dans l'édition académique, des textes tout à fait accessibles, qui sont passés complètement inaperçus des commentateurs, dans lesquels c'est précisément ce problème qui est posé, à savoir, comment sait-on qu'une loi s'applique à un cas particulier? Et Leibniz, dans le texte que je vous ai donné là, que vous avez ici en latin, j'ai tout simplement recopié l'édition académique, qui se trouve en ligne, ce passage tout à fait intéressant. Vous voyez, j'ai écrit ici, en gros, là, j'ai donné une sorte de traduction avec ce qui me reste de latin leibnizien, n'est-ce pas, à savoir, dit-il, qu'il y a quelque chose de vous voyez, je traduis la fin du texte, hein, qui est en grandes lettres. Au fond, il dit, il suffit de savoir quelle loi est limitée par une autre. Et pour savoir cela, il n'y a pas vraiment de difficulté si seulement on entend bien ce que nous avons dit de la présomption, car toute loi est présumée et s'applique dans le cas proposé, à moins qu'on ait montré un obstacle qui intervient, donnant lieu à une exception prise à une autre loi. De là vient que la charge de la preuve est transférée à celui qui réclame l'exception. C'est un texte, c'est un échantillon, c'est un exemple d'un texte qui est tout à fait intéressant, parce qu'il nous invite à nous représenter, au fond, le problème de l'application des lois et des règles comme un problème qu'il faut prendre d'une manière différente et qui a été envisagé par les juristes, à savoir, toute loi s'applique à tout. Voilà la première prémisse. Toute loi s'applique à tout. Toute loi s'applique universellement, y compris d'une manière tout à fait contre-intuitive. Et si elle ne s'applique pas, c'est parce qu'il y a une autre loi qui, en quelque sorte, fait valoir ses droits, j'ai envie de dire, et qui dit, oh là là, là, dans ce cas-là, c'est moi. Vous voyez ? Et ce « dans ce cas-là, c'est moi », ça s'appelle l'exception. Et pourquoi on va employer ici la présomption? Puisque la présomption, on va l'employer parce que la présomption contient ce que je vais appeler tout à l'heure cette clause SNI, la clause si nihil impediat, la clause d'exception, à savoir la présomption, c'est ce qui s'applique sauf si quelque chose l'en empêche, sauf si quelque chose vient faire obstacle. Toute loi s'applique sauf si une autre loi s'applique. Donc il faut se représenter, disons, la sphère des lois ou la sphère des règles juridiques comme une sphère saturée, c'est bien principalement le problème, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de trou dans cette sphère, et le problème de l'application est réglé, en quelque sorte, par cette logique de la présomption. C'est pour cette raison-là que Leibniz a constamment évoqué, dans cette fois-ci sa philosophie des lois de la nature, la présomption comme étant la modalité qui vaut lorsqu'on envisage la physique concrète, ce qu'il appelle la physique concrète, c'est-à-dire l'application des lois physiques générales aux cas particuliers ou aux situations évidentielles particulières. Alors, cet ensemble-là m'invite à reprendre un petit peu la question, à la reprendre d'une façon un peu systématique, un peu plus systématique. Je ne suis pas le premier, hein. Il y a déjà une littérature assez abondante. Je vous ai donné quelques échantillons dans l'exemplier. Je dois dire que, en ce qui concerne la littérature proprement juridique, j'ai été assez surpris, d'une part, de constater que la présomption était très souvent mentionnée et qu'elle était souvent mentionnée par les philosophes du droit de manière négative, de manière comme quelque chose qui est relativement peu clair. Quelque chose que les juristes emploient, mais qui n'est pas sur quoi on ne peut pas vraiment s'appuyer, vous voyez. Et il y a un article un peu plus récent de 2008 dans le Journal of Social Epistemology. Vous savez, c'est une revue assez peu connue, mais qui a été fondée par Alvin Goldman, qui a souvent des articles extrêmement intéressants, qui s'appelle Épistémé, donc. Cet article de Karen Petrovski, j'en donne une citation ici, où elle dit, vous voyez, je cite ou je traduis, « En se concentrant de manière étroite sur la présomption, la littérature juridique n'a pas clarifié la situation. Il y a comme un cliché dans les contributions juridiques sur cette question qui consiste à commencer par citer des nombreux énoncés obscurs que la question a produits. » C'est-à-dire qu'on envisage presque toujours la présomption comme une pratique obscure qui finalement n'est pas complètement justifiée et qui n'est surtout pas complètement clarifiée. Alors, voilà, je tenais à dire ce point pour donner ce point pour indiquer qu'il s'agit d'une question débattue parmi les philosophes du droit, hein, et pas du tout d'une question résolue. D'autant que la pratique de la présomption en anglais, je dirais dans la philosophie en anglais ou dans la pratique juridique en anglais, est plus large encore que celle qui existe en français, dans la mesure où on appelle également présomption dans le droit britannique, ou de langue anglaise en tout cas, des cas que nous n'appellerions pas présomption. Par exemple, il y a une présomption que un enfant en dessous de 10 ans ne peut pas commettre un acte criminel. C'est un principe du droit. Nous n'appellerions pas ça une présomption, puisqu'il y a une règle de la présomption ou un aspect de la présomption qui n'est pas ici du tout rempli, à savoir que ça n'est pas révisable, ça n'est pas modifiable. Et néanmoins, ça figure dans les textes scolaires sur la philosophie du droit comme un cas de présomption. Donc, vous devez ici considérer que lorsque j'emploie la notion de présomption, je l'emploie à la manière des juristes, mais non pas pour en pensant que le travail de clarification a été fait par les juristes, n'est-ce pas ? Néanmoins, il y a au moins deux aspects de cette question sur laquelle les juristes et les philosophes du droit sont d'accord, c'est que la présomption a deux jambes, je dirais, hein, deux aspects. Et ce sont ces deux aspects que j'ai indiqués sur cette diapo-là, à savoir ce que j'appellerais en premier lieu le défaut évidentiel et en deuxième lieu l'inversion de la charge de la preuve ou de l'onus probandi. Alors, je dis défaut évidentiel, je devrais dire défaut informationnel, puisque évidentiel, c'est un anglicisme, mais je l'emploie à dessein, puisque je pense qu'il faut qu'on importe ce terme d'évidence dans le sens, comme de l'anglais dans le français, tout simplement parce que nous n'avons pas de terme équivalent et que nous en avons besoin. Donc, je dirais évidence et évidentiel dans le sens de evidence. Vous pourrez vous amuser à chercher dans les textes d'épistémologie en français les surrogates pour évidence, et vous verrez qu'il y en a suffisamment et de différents et qui sont suffisamment contournés pour qu'on ait envie de dire, bon, on arrête, maintenant on va dire évidence, évidentiel. Alors, le premier point, c'est donc cette absence d'évidence ou d'information pertinente. La présomption s'emploie en l'absence d'informations pertinentes ou lorsque le niveau d'information est inférieur à celui qui serait normalement requis pour les conclusions factuelles ou non factuelles qu'on entend tirer. Et deuxième point, la présomption opère une inversion ou une restriction de la charge de la preuve. Une inversion, lorsqu'il est entendu que c'est aux partisans du contrat d'établir que ce qui fait l'objet d'une présomption est faux, c'est-à-dire je présume que P, et c'est à vous de me montrer que non P, si vous n'êtes pas d'accord. Une restriction seulement, lorsque, en dehors d'une situation dialogique ou contradictoire, on attribue à l'objet de la présomption une force inférentielle, disons, qui serait celle d'un fait dûment établi, alors que l'objet en question n'est pas un fait dûment établi, mais quelque chose qui est moins établi, quelque chose de non factuel. C'est la raison pour laquelle, je vous ai dit en commençant, il y a des aspects extrêmement passionnants quand on commence à faire la sémantique de cette affaire-là, tout simplement parce que la sémantique des modalités épistémiques, disons la notion d'espace épistémique telle qu'elle est employée par les sémanticiens, s'appuie en général sur la représentation de ce qui est le cas. Je me représente le monde et ma représentation du monde exclut un certain nombre de possibilités. À chaque fois que je crois que P, j'exclus non P et j'exclus tout ce qui est lié à non P. Et donc, je peux avoir une sémantique fondée sur un aspect factuel, vous voyez. Je vais tout simplement faire la différence entre ce que je crois et ce que je ne crois pas, et ça va donner des partitions assez propres de mon espace épistémique. Si vous importez des modalités qui ont ce genre de complexité-là, c'est-à-dire quelque chose qui joue un rôle épistémique extrêmement important et qui néanmoins n'est pas factuel, comme la présomption, alors vous ne pourrez plus vous appuyer entièrement sur une sémantique de ce genre. Il faudra inventer des modalités de représentation des croyances et des connaissances un petit peu plus sophistiquées. C'est pourquoi je vous ai dit que c'était un cas, que c'était une approche tout à fait intéressante. Alors, voilà les deux aspects principaux de la présomption dont je voudrais vous parler. Aucun de ces deux aspects n'a véritablement échappé à la critique, je vous l'ai dit, hein. On a un livre tout à fait passionnant de Richard Gaskins, dans lequel la présomption est abordée d'un point de vue, disons, social, de philosophie sociale, dans lequel il explique la présomption sur la base d'une pratique sociale et non pas du tout sur la base d'une argumentation juridique et d'une rationalité juridique. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose comme un champ de controverse ici. Et néanmoins, je pense que peut montrer qu'on peut faire un usage intéressant de la présomption dans l'épistémologie en se basant tout simplement sur ces deux aspects qui sont le contexte d'information limité et l'inversion de la charge de la preuve. J'ai envie d'appeler présomptivisme, n'est-ce pas, cette tentative-là. Donc d'avoir une forme de présomptivisme un petit peu moins ambitieuse que celle dont j'ai parlé en commençant, celle, disons, de Felipe Bravo, de mon cher Felipe Bravo, c'est-à-dire on n'a pas encore une position présomptiviste qui viendrait jouer dans la métaphysique des mathématiques ou dans l'épistémologie des mathématiques, un rôle tout à fait fondamental, mais disons, on a un présomptivisme modeste qui consiste à dire il y a vraiment des cas où on a quelque chose qui ressemble à la présomption et donc on peut au moins éclairer la situation épistémique ou les types de situations épistémiques en disant, ben voilà, regardez, on est dans une situation de présomption. Alors, pour faire cela, je veux le faire à propos du modus ponens, on va passer par un petit détour qui est la clarification de cette notion de présomption et élaborer un petit peu la notion. Je vais le faire assez rapidement maintenant, dans le quart d'heure qui vient. Disons que le défaut, ces deux points-là que vous avez sur cette diapo, le défaut évidentiel et l'inversion de la charge de la preuve, sont plutôt des conditions requises pour qu'une présomption soit établie, mais ce n'est pas la présomption elle-même. Alors qu'est-ce que c'est que la présomption? En quoi consiste la présomption? Alors ici, je reprends un article tout à fait classique sur cette question de Ulma Margalit, philosophe israélienne, une représentation de ce qu'elle appelle la formule de présomption. Prenons l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Hein. Un enfant né dans le mariage est présumé légitime, c'est-à-dire qu'on présume que c'est le fils de son père, du mari de sa mère, hein, de son père légitime. Cette phrase, un enfant né dans le mariage est présumé légitime, est une instance de ce que j'ai écrit ici, à savoir prés PQ, qui est une formule au sens où, pour qu'on ait une présomption, on a besoin de deux éléments. Un élément qui est indiqué par P, qui s'appelle le fait de base, qu'on appellera le fait qui donne lieu à la présomption, raising fact. Par exemple, ici, c'est que tel enfant est né dans le temps du mariage. Voilà le fait de base. Et Q est le présumé. À savoir ici que l'enfant qui est né dans le temps du mariage est le fils du mari de la mère ou la fille du mari de la mère. Et la présomption elle-même est une règle qui permet de passer d'une instance de P à une instance de Q, en considérant, par exemple, que tel enfant particulier est le fils ou la fille de tel homme particulier. Alors, il y a, évidemment, immédiatement, quand on a affaire à une élaboration ici, un certain nombre de simplifications, n'est-ce pas ? Une des simplifications importantes qui est proposée, c'est que tout cela est donné sous une forme propositionnelle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le fait de base a la forme que A est F et le présumé a la forme que B est G. On peut imaginer des cas où ça ne serait pas le cas. Disons que pour simplifier, on a ici une simplification acceptable. L'autre aspect, vous voyez, c'est que, et c'est un point sur lequel Ulma Margalit insiste beaucoup, la présomption n'est pas une règle, à proprement parler, une règle d'inférence, mais c'est une règle d'action. Hein, c'est-à-dire que quelque chose que j'ai écrit ici dans la deuxième ligne de ce tableau. Hein, si j'ai le fait de base, P, alors il est possible, ou il est licite, ou il est requis d'agir comme si Q, n'est-ce pas ? Dans les conditions C. Ce point est important puisque, vous voyez, du point de vue épistémologique, ça va peut-être nous contraindre un petit peu si on veut utiliser cette présomption dans un sens élargi, c'est-à-dire pas seulement dans le droit, si on veut l'exporter en dehors de la sphère du droit, et notamment l'utiliser comme une modalité épistémologique générale, on va devoir envisager la connaissance elle-même comme une action, ce qui n'est pas absolument interdit. Après tout, Sosa nous y invite d'une certaine manière, mais il y a évidemment des points différents, des points importants qu'il faut mentionner et que je mentionnerai tout à l'heure, en particulier le fait que, en général, une des différences entre une règle d'action et une règle, disons, cognitive ou une règle épistémologique, c'est qu'il y a ce que j'appellerais volontiers la possibilité de l'agnosticisme. On peut toujours dire « je ne sais pas », alors que dans l'action, souvent, on ne peut pas. On doit agir, n'est-ce pas ? Et bien entendu, si la présomption est utilisée par les juristes parce que, dans certains cas, on doit agir alors qu'on n'a pas le droit de dire « je ne sais pas », parce qu'on ne peut pas, tout simplement, hein. Évidemment, ce sera difficile d'importer cette modalité dans la mesure où, surtout dans la métaphysique, j'ai envie de dire, si on ne peut pas dire « je ne sais pas », alors où est-ce qu'on peut le dire ? Ça devient inquiétant, n'est-ce pas ? Donc il faudra bien avoir en tête cette petite difficulté, hein, que j'appellerais volontiers la difficulté de l'agnosticisme, à savoir que on doit pouvoir éventuellement laisser tomber la présomption si elle nous invite un petit peu plus que nous ne le souhaiterions à sauter toute possibilité d'agnosticisme, d'incertitude ou d'ignorance. Alors, je donne quelques éléments de supplémentaires dans l'élaboration de cette présomption. Je vous ai dit qu'il y avait donc cette règle d'action, qu'il y avait une forme propositionnelle, qu'il y avait deux éléments, le fait de base et le présumé. Il y a enfin cette condition C, n'est-ce pas, qui est la troisième condition. Cette condition C, c'est si nihil impediat, dans le jargon juridique, à savoir, sur la base de P, je peux présumer que Q, si il n'est pas établi que non Q. Si il n'est pas établi que non Q. De sorte que, si on veut donner un ensemble à tout cela, vous voyez, on a une formule qui est un peu plus complexe. Hein. Dans les exemples classiques, le fait de base et le présumé sont des faits, c'est-à-dire qu'ils contiennent l'un et l'autre un objet et une propriété. Mais il va de soi que P et Q sont le plus souvent des faits complexes qui peuvent être moléculaires, qui peuvent même être relationnels. Et dans l'exemple que j'ai donné de la présomption de paternité légitime, on a effectivement des faits relationnels. Tom et Ella sont mariés, Anna est née dans le temps du mariage, alors il est requis d'agir comme si Q, Anna était la fille de Tom. Dans les conditions C, on n'a pas établi que Anna n'était pas la fille de Tom. Autre exemple que vous connaissez bien, la présomption d'innocence. Ici, on aura P, disons, Paul est mis en examen. Alors, il est requis d'agir comme si Q, Paul est innocent, était innocent, dans les conditions C, on n'a pas établi que Paul n'était pas innocent. Cette inversion de la charge de la preuve est exprimée par cette condition C. C'est-à-dire, il revient à l'opposant d'établir que C est le cas. Dans une situation où non Q, alors la présomption ne s'implique pas. Il faut avoir en tête que cette condition C est extrêmement forte, puisque c'est une condition qui éteint la présomption. C'est cette condition que j'appelle la clause SNI, que nous appellerons désormais la clause SNI. Elle a un rôle épistémique qui n'est pas uniforme dans la pratique juridique, et je voudrais simplement attirer votre attention sur ce point. Considérez la présomption d'innocence. Lorsque on envisage la présomption d'innocence, la clause SNI, c'est s'il n'a pas été montré qu'il était coupable, qu'il ou elle était coupable. Dans cette présomption-là, la clause SNI, elle donne l'objet de la présomption et même l'objet de l'enquête. Ce sur quoi on enquête, c'est sur la culpabilité ou l'innocence de cette personne. Donc, on nous dit que le meilleur moyen d'enquêter sur la culpabilité d'une personne, c'est de la présumer innocente. Et d'activer cette clause, ou de chercher à activer cette clause SNI, à savoir chercher à montrer qu'elle est coupable. Il y a des cas de présomption où c'est tout à fait différent. Je ne crois pas, et vous l'accorderez, que la présomption de paternité soit la bonne manière d'enquêter sur la filiation. Je ne vais pas supposer qu'à chaque fois que je veux savoir si un tel est le fils de son père légitime ou le fils de son père légitime, j'ai besoin de supposer qu'il est le fils ou le père légitime de son père. Là, la présomption est établie, non pas parce que c'est une bonne manière, par exemple, de protéger ou de réaliser ce qu'on appelle la sécurité juridique, de protéger les justiciables. Non, elle est appliquée pour d'autres raisons qui sont assez différentes. Par exemple, parce que dans certains cas, il faut pouvoir distribuer des droits de succession, par exemple, et on a besoin à ce moment-là d'une présomption. Et la clause SNI vaut, n'est-ce pas, pour permettre en quelque sorte d'établir cette présomption en l'absence des faits. En l'absence des faits, notamment d'imaginer un monde dans lequel on n'a pas de moyens d'établir, on n'a pas d'évidence de la paternité. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est cette plasticité de la présomption et de la clause et de la charge de la preuve qui je trouve tout à fait intéressante et qui mérite notre attention dans un usage élargi. Alors, j'ai donné ici encore une autre version, en quelque sorte, de la formule de présomption. On peut en donner encore pas mal, on peut l'élaborer beaucoup, l'affiner beaucoup. Je ne veux pas vous imposer toutes les versions. Ce qui peut-être m'intéresse dans cette version que j'ai appelée FPEV, vous voyez tout en bas dans mon tableau, c'est que je l'ai exprimée dans l'idiome qu'on appelle parfois l'idiome évidentialiste, c'est-à-dire qu'on considère qu'une croyance a une base évidentielle et qu'il y a une relation qu'on considère comme une relation primitive entre une croyance et sa base évidentielle et que cette base évidentielle joue en quelque sorte le rôle majeur dans la justification. Et on peut exprimer, vous voyez, la présomption dans cet idiome évidentialiste, ce que j'ai fait ici, vous voyez, s'il existe une base évidentielle grand E pour P, que A et F, et s'il n'existe pas de base évidentielle E' pour non Q, ça c'est la clause SNI, B n'est pas G, alors il est possible ici, requis, d'agir comme si Q, B était G, ce qui nous donne effectivement une formulation à peu près cohérente de cette présomption. Ce qui signifie que la présomption, et je terminerai sur ce point, est une règle relative au fondement épistémique de l'action, qui porte sur la base évidentielle de l'argent, mais qui porte sur la base évidentielle de l'agent, avec la possibilité d'une méta-représentation de cette base, c'est-à-dire avec la possibilité de dire voilà quelle est la base évidentielle, et en vertu de cette base, je peux avoir une justification relativement élargie, c'est-à-dire avoir une justification un peu plus grande que celle que les évidentialistes seraient prêts, stricto sensu, seraient prêts à nous accorder. Et vous savez d'ailleurs que c'est un des problèmes principaux de l'évidentialisme, stricto sensu, que bien souvent nous avons des justifications dans nos pratiques épistémiques ordinaires qui vont au-delà de ce qui fit, de ce qui est la relation ordinaire entre une croyance et sa base évidentielle. Donc, je dirais que la présomption est peut-être une des manières d'entrer dans cette justification évidentielle augmentée. C'est-à-dire qu'on a une base évidentielle pour la présomption. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est une présomption, il n'y a pas de fait. Et j'ai insisté sur le fait qu'on avait un fait de base, le P, le fait, ce que Ulma Margalit appelle le fait de base. Mais ce fait de base donne lieu à une présomption, la présomption que Q, dans certaines conditions, et ce sont bien entendu ces conditions qu'il faut essayer d'avoir clairement à l'esprit. Alors, j'insiste encore sur un point, peut-être sur deux points. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'aspect prescriptif de la présomption. Je voudrais en dire quelques mots. Vous vous rappelez, j'avais dit un enfant né dans le mariage est le fils ou la fille de son père légitime. Ce qui signifie, dans une des paraphrases que j'avais données, en l'absence de preuves du contraire, nous devons faire comme si un enfant était le fils ou la fille de son père légitime. Et cet aspect prescriptif, évidemment, n'est pas présent dans la présomption du langage ordinaire. C'est un point qui mériterait aussi peut-être un développement assez long, et une étude sur la présomption telle que je l'envisage doit donner ici des développements assez subtils. Je vous donnerai simplement quelques points ou quelques aperçus. Parfois on confond l'aspect prescriptif de la présomption et l'aspect prescriptif du présumé. Prenons le cas de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence dit, en l'absence de preuves du contraire, je dois considérer que cette personne est innocente. C'est-à-dire, je dois agir selon ce que me prescrit l'innocence de cette personne. Mais qu'est-ce que me prescrit l'innocence de cette personne ? Imaginez, par exemple, un système juridique dans lequel on n'a pas une règle du type qui, fort heureusement, est la règle de notre système juridique, qu'une personne innocente ne doit pas être condamnée. C'est ça, d'ailleurs, être une personne innocente. Mais on aurait une règle du type une personne innocente ne doit pas être condamnée, sauf dans les cas où la condamnation de cette personne innocente augmenterait de manière non négligeable les utilités sociales et, par exemple, limiterait les risques de guerre civile ou que sais-je encore. Tous ces cas que les utilitaristes ont beaucoup discuté, vous voyez. On peut très bien imaginer d'appliquer la présomption d'innocence dans un tel cas. Et cette fois-ci, on aurait toujours le même caractère prescriptif de la présomption. Vous devez considérer cette personne comme innocente, mais ça ne nous obligerait pas à ne pas la condamner. Donc il faut bien avoir en tête cette distinction de la force prescriptive de la présomption comme règle et de la force prescriptive du présumé. La force prescriptive du présumé, elle ne dépend pas seulement de la présomption, elle dépend d'un cadre juridique beaucoup plus global. Elle a la force inférentielle qu'elle a en vertu, n'est-ce pas, de sa signification, en vertu de ce qui lui donne cette force inférentielle, mais ce n'est pas la présomption qui la lui donne. Le deuxième point, je dirais que la force prescriptive, elle est liée au défaut d'information. À savoir, lorsque les évidences sont insuffisantes pour éclairer la décision d'action, alors la présomption est active. Prenez la présomption de paternité. Si nous savons qu'il ne s'agit pas du fils ou de la fille de son père légitime, alors on ne va pas appliquer la présomption de paternité. C'est-à-dire, si vous avez une preuve, un test ADN, si la présomption a été, si la paternité a été établie, si la mère, par exemple, a dit « non, voilà le père », alors ça n'a pas de sens de faire jouer cette présomption. Elle s'éteint. On pourrait imaginer un juriste fou qui voudrait toujours faire valoir les présomptions juridiques contre les faits. Non, ça n'aurait pas de sens. Ça veut dire que la présomption a un caractère prescriptif extrêmement étrange et extrêmement intéressant. Tant qu'on est dans cette situation de clair-obscur informationnel, elle est active, elle prescrit. Et quand cette situation de clair-obscur informationnel disparaît, alors, n'est-ce pas, la présomption s'éteint. Vous voyez. En ce sens, on pourrait dire que la présomption dépend de la situation épistémique et elle en dépend de manière fondamentale, c'est-à-dire elle n'est active que selon certains traits, ses conditions d'activité dépendent de certains traits de la situation épistémique, c'est ce qui la rend intéressante, et non pas simplement des traits des contenus mentaux ou des contenus doxastiques qui sont envisagés. C'est la raison pour laquelle elle m'intéresse, parce qu'elle a des racines dans les contenus doxastiques et d'autres qui sont dans la situation d'arrière-plan ou dans la situation concrète dans laquelle on entend la faire jouer. Et je vous ferai peut-être cette dernière remarque, de même que j'ai dit, il faut qu'on ne sache pas trop, il faut qu'on n'en sache pas trop. Un cas que je trouve tout à fait représentatif de la présomption, c'est le cas de la présomption de mort dans certaines situations où on a besoin de savoir qui est mort le premier. Pardonnez-moi, ce sont souvent des exemples assez sordides, mais là, le père et le fils ou le père et la fille sont morts dans un accident tragique, dans un accident d'avion, et selon que le père ou le fils est mort le premier, le père a hérité du fils qui lui-même a donné son héritage aux frères et sœurs survivants, ou bien c'est le père qui est mort le premier, et donc les frères et sœurs survivants héritent de leur frère sans passer par l'étape du père, et donc les droits évidemment de succession ne sont pas les mêmes, et si les sommes sont suffisamment importantes, ça peut faire une différence. Donc là on a une présomption que le plus vieux est mort le premier. Cette présomption est active dans le droit des successions. Il n'y a personne dans l'avion pour savoir qui est mort le premier, et le juge ne va pas dire, oh, vous voyez. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans cette situation où le défaut informationnel est assez fort, et en même temps, il faut qu'on soit intéressé à l'information en question. Il faut qu'on ne soit pas indifférent. Autrement dit, si je n'ai pas besoin de distribuer les droits, si je ne suis pas un notaire qu'on vient voir parce qu'il faut savoir à qui on va donner quelle somme et quelle somme l'État va ponctionner sur cet héritage, je n'ai absolument aucune raison de faire valoir ou de me prévaloir de cette présomption de mort, de dire que le plus vieux... Non, le plus vieux n'est pas mort le premier. Il n'y a pas de raison de penser épistémiquement que le plus vieux... Il n'y a pas de raison statistique, il n'y a pas de raison de vraisemblance, il n'y a pas... Non. Donc, c'est cette idée d'indifférence épistémique que je voudrais simplement vous suggérer et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Peut-être que nous n'avons pas de possibilité, nous avons dans l'épistémologie générale et dans la métaphysique une possibilité d'ignorance, fort heureusement, nous pouvons dire que nous ne savons pas, mais il y a des cas où cette possibilité d'ignorance, cette possibilité où nous pouvons dire que nous ne savons pas, est en quelque sorte contrariée par... parce que nous ne sommes pas indifférents. Je le dis d'autant plus qu'il y a peut-être dernièrement un mouvement qui se fait jour qui s'auto-intitule indifférentisme métaphysique et qui pourrait être, je crois, un des pires concurrent de mon présomptivisme, si tant est que ce présomptivisme ait quelque destinée philosophique. Alors, j'ai parlé jusqu'à présent de toutes ces conditions. Il faut qu'on ne soit pas indifférent, il faut qu'il y ait des conditions limitées, il faut qu'on sache beaucoup de choses, mais qu'on ne sache pas tout. Il y a quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est cette doctrine d'arrière-plan. Et cette doctrine d'arrière-plan... Euh, voilà comment l'introduire. Est-ce que le présumé, donc je vous rappelle que le présumé, c'est ce que je peux inférer sur la base du presumption raising fact, du fait qui permet d'établir la présomption, est-ce que ce présumé est justifié? Et s'il l'est, en quel sens l'est-il? C'est un peu le sens du titre que j'ai donné à cet exposé. Il est clair que la somme évidentielle, les évidences disponibles, elles sont suffisantes, elles doivent être suffisantes pour justifier le présumé, pour justifier, pardon, le fait de base. C'est-à-dire, je ne peux pas faire valoir de la présomption de paternité si je ne peux même pas faire valoir que cet enfant, il ou elle, est né dans le temps du mariage. Donc j'ai besoin quand même qu'on établisse ce point-là. Et on ne peut pas utiliser une présomption en dehors de l'établissement d'un certain nombre de faits. Mais ce qui caractérise la présomption, c'est que l'évidence justifie éventuellement au sens ordinaire le présumé, mais elle ne justifie pas l'évidence justifie le fait de base, mais elle ne justifie pas le présumé. Et si elle justifiait le présumé, la présomption ne serait pas active. Alors, vous savez qu'une des questions disputées parmi les épistémologues, c'est la question de savoir si on doit distinguer différents sens de la justification, différents modes de la justification. John Greco, par exemple, l'école de Sosa a discuté beaucoup cette question dans un livre de 2005, tout à fait passionnant. Il y a d'autres références. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que la présomption, c'est un type de justification? C'est justement ce que je voudrais de ne pas faire, pour éviter de multiplier sans raison les entités, et parce que je crois que si le travail de l'épistémologue, ça consiste à dire, ben voilà, il y a autant de types de justification que ceux dont on a besoin ou qu'on a dans nos pratiques, si on a ce travail strictement descriptif, alors on aura peut-être fait un travail utile, hein, de philosophie sociale, mais on n'aura pas fait un travail philosophique à proprement parler. Alors, ce qui, me semble-t-il, fait que la présomption est un peu plus... N'est pas une justification abusive, n'est pas non plus une justification au sens évidentiel, c'est pas non plus quelque chose comme une relation simple entre une croyance et sa base évidentielle, c'est la présence de cette doctrine d'arrière-plan, hein, de ce savoir d'arrière-plan, dans laquelle la présomption est autorisée, elle est inscrite comme un pas cognitif ou un pas argumentatif, disons autorisé ou obligé. Jusqu'à présent, j'ai même dit qu'elle était plutôt obligée, hein, prescrite. Elle figure comme type dans notre droit, hein, la filiation, par exemple, de la filiation légitime, la présomption de filiation légitime figure comme type dans notre droit de l'héritage. Et donc, il est impossible d'envisager la présomption à la manière des juristes sans la référer à un corpus de règles. Ça signifie que celui qui fait usage de la présomption, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, doit savoir, même minimalement, qu'il existe une doctrine à laquelle la présomption est adossée. Oui, je vous ai donné des cas où on avait où je vous disais, on est dans une situation d'information limitée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet avion, je ne sais pas qui est mort le premier, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce couple, je ne sais pas de qui cet enfant est l'enfant. Et néanmoins, je peux présumer que c'est le père qui est mort le premier ou que c'est le père légitime qui est le père de cet enfant. Il y a quelque chose que je dois savoir, et que c'est que cette présomption est autorisée dans un corpus de droit. Et donc, cette présomption, vous voyez, elle fait l'objet d'une méta-représentation, c'est ce que j'ai exprimé dans cette diapo-là. Le rapport de la présomption à la doctrine d'arrière-plan est un rapport absolument nécessaire, c'est une condition absolument nécessaire. Je vous lis simplement, hein, la formulation précise que j'ai proposé. Si un agent A effectue de manière justifiée une présomption de type presse PQ sur la base évidentielle E dans une situation épistémique déterminée, premièrement, A sait même minimalement qu'il existe une doctrine D où figure ce type, présomption. Deuxièmement, et ce type qui le justifie a employé un token. Deuxièmement, que cette doctrine est adaptée à la situation épistémique en question. Enfin, troisièmement, que grand E contient le fait de base. Et la troisième condition, c'est la condition évidentialiste ordinaire. Et toutes les deux autres, les deux premières, ce sont des conditions extraordinaires, ce sont des conditions qui tiennent à notre relation à la croyance, à la doctrine d'arrière-plan. Donc, vous voyez qu'il y a ici une justification que j'appelle la justification d'ordre élevé ou métadoxastique, hein. Disons que, ou on pourrait parler de situation justificationnelle augmentée, où la justification va faire appel d'une part à une base évidentielle, d'autre part à une doctrine d'arrière-plan. Je laisse de côté, je passe rapidement sur cette question, je veux simplement vous indiquer comment cette question, encore une fois, comme la celle de la section précédente, peut donner lieu à des développements et à des analyses plus fines, ne serait-ce que dans la notion de doctrine pertinente. Vous voyez, de doctrine pertinente, c'est-à-dire dans quelle mesure la présomption est justifiée, l'usage, cette fois-ci, ce n'est pas la présomption qui est justifiée, mais c'est son usage qui est justifié par la pertinence de la doctrine. Imaginez le dialogue suivant. Je me demande sans arrêt comment ils sont morts, s'ils ont souffert, s'ils se sont vus mourir. Et l'autre répond, nous n'en savons pas grand-chose, mais en l'absence de preuves du contraire, nous pouvons supposer que le père est mort avant le fils. Vous voyez bien que là, le premier intervenant dans ce dialogue risque de regarder son interlocuteur en disant, mais ce type est complètement fou. Et pourquoi il est complètement fou? Parce qu'il a fait un usage non pertinent de la doctrine d'arrière-plan. Ça veut dire que on peut reprocher à un agent ou à un locuteur ou à un knower, un sujet connaissant, un usage non pertinent d'une doctrine d'arrière-plan, un usage non pertinent qui se révèle par une présomption, hein, parce qu'il a activé une présomption qu'il n'aurait pas dû activer. Et toute la question est de savoir qu'est-ce qui fait qu'une doctrine d'arrière-plan est pertinente, qu'est-ce qui fait qu'elle est impliquée dans notre situation épistémique, dans quelle mesure, rappelez-vous, ceux qui étaient là la semaine dernière, il y a eu cette discussion pour savoir qu'est-ce qui relève de la doctrine d'arrière-plan, ou en tout cas de l'arrière-plan épistémique, et que nous n'avons pas besoin de justifier éternellement, et c'était l'argument principal que Sosa donnait contre les scénarios épistémiques, les scénarios sceptiques, merci. Vous voyez, là, évidemment, la question, c'est où est la frontière entre ce qui relève de l'arrière-plan et de ce qui relève vraiment de la situation épistémique active. Et donc, quelles sont les doctrines ou les éléments de savoir qui portent sur cette situation? Et là, c'est l'aboutness qui est en question. Et là, on ouvre un autre sujet qui est extrêmement difficile et extrêmement débattu dans la philosophie d'aujourd'hui. Et je dois dire que le dernier livre sur ce point de Yablo, Aboutness, est un des livres les plus passionnants que j'ai lu récemment. Alors, un autre point, peut-être, pour finir sur cette question, c'est que... Si l'on importe la présomption dans l'épistémologie générale, on doit reconnaître que le savoir est distribué socialement, exact, et que cette distribution, ce qui est intéressant dans le droit, c'est que le droit contient aussi les conditions dans lesquelles ce savoir est distribué, c'est-à-dire qu'on sait ce que la personne est censée savoir, ce qu'on peut lui reprocher de savoir ou de ne pas savoir. C'est pourquoi le concept de sécurité juridique est un concept passionnant. Hein, parce que si on peut montrer phénoménalement qu'il y a des situations dans lesquelles les justiciables n'ont pas accès aux règles ou n'ont pas du tout la possibilité d'avoir accès à des règles non contradictoires, par exemple, alors le droit est dans des difficultés fondamentales, dans des difficultés importantes. Alors... je crois que même là, il y a encore tout un champ d'analyse. Hein, je voulais vous en donner un échantillon, je vais passer, mais un champ d'analyse dans lequel on réfléchit sur ce qu'on appelle en philosophie, en général en philosophie de l'esprit ou en philosophie du langage, la déférence. Mais cette fois-ci, la déférence épistémique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut savoir pour être en situation de savoir quelque chose, même les énoncés les plus élémentaires, même les croyances les plus élémentaires, par exemple que 2 plus 2 égale 4, il y avait évidemment beaucoup plus à savoir que sur 2 plus 2 égale 4 que ce que savent les marchands de Spinoza qui, dans le traité de la réforme, calculent très 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 vite sur leurs mains et sont extrêmement brillants, n'est-ce pas, mais ne connaissent pas la théorie des nombres, les axiomes de Peano et les recherches des néo-fréguéens. Vous voyez, donc, on peut se demander l'analyse. Une analyse présomptiviste est une analyse qui va porter sur quelle est la structure d'autorisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut imputer comme savoir exact, en acte, à celui qui donne, qui se revend, à celui à qui on attribue une connaissance. Et dans quelle mesure le savoir alien, par exemple le savoir de celui qui en sait beaucoup sur les nombres, intervient dans cette attribution. Vous doutez bien que le fait que la connaissance augmentée de l'arithmétique ne modifie pas la valeur de vérité de 2 plus 2 égale 4 justifie celui qui dit 2 plus 2 égale 4 en ignorant presque tous les nombres à penser qu'il a raison. Et pourtant il ne sait rien de cette... Donc il sait néanmoins qu'il y a peut-être quelqu'un qui en sait plus que lui, de même que le justiciable sait qu'il y a quelqu'un qui connaît le droit et qui est susceptible de lui indiquer comment et pour quelles raisons il doit agir de telle ou telle manière. Alors je passe sur ce point-là, mais vous voyez que c'est un point extrêmement important, hein, et c'est un point qui est au centre de la distinction, disons par exemple dans les discussions sur le contextualisme ou sur l'importance du contexte en épistémologie, entre le savoir attribué ou l'attribution d'une connaissance et disons ce que j'appellerais le savoir requis, c'est-à-dire le savoir qui est requis pour que la justification soit entière. Alors, je vais maintenant terminer rapidement en vous donnant ce dont j'avais parlé en commençant, à savoir le cas qui me paraît intéressant, ou l'application qui me paraît, disons... pouvoir être donné de la présomption sans entrer trop dans des considérations qui ne pourraient pas être tenues dans le temps modeste qui me reste. Et quand je dis cela, immédiatement, je me dis non, j'aurais besoin de beaucoup de temps pour vous donner tous les éléments pour ce débat. Disons qu'on a eu plusieurs articles dans les années 2000, de Bogossian, cette question de la justification des règles de la logique, du savoir logique en général, de la nature de l'épistémologie de la logique. Et donc j'ai extrait un élément de cette discussion qui est assez complexe sur Bogossian, qui concerne la discussion du modus ponens, et je vous ai donné ici dans la diapo ici deux citations principales. Le modus ponens, vous savez tous ce que c'est, hein, c'est la règle d'inférence, disons une des règles, peut-être sans doute la règle d'inférence la plus simple, qui indique que si j'ai une prémisse factuelle P et une prémisse non factuelle conditionnelle si P alors Q, alors j'ai le droit d'inférer Q. Si toutes les fois qu'il pleut, la rue est mouillée, dit Sellars dans un article fameux, il pleut, donc la rue est mouillée. L'exemple que Sellars a donné pour fonder, et qui a fondé ce qu'on a appelé par la suite l'inférentialisme, c'est-à-dire, bon, peu importe pour ce point. Bogossian se pose la question de savoir dans quelle mesure on peut donner une justification pour cette règle. Alors vous me direz, justifier une règle, c'est pas la même chose que justifier un contenu. Oui, répond Bogossian, mais il n'y a pas de raison qu'une règle ne soit pas justifiable ou ne relève pas d'une justification. Le problème, c'est que quand on a affaire à une règle de base, comme celle-ci, alors, évidemment, toute justification de la règle utilise la règle. C'est ce que vous avez ici dans la citation. Comment est-il possible d'être justifié dans nos croyances logiques fondamentales, puisque la logique sera impliquée inévitablement dans toutes les comptes rendus des justifications de ces croyances? Pour cette raison, il n'y a pas de justification a priori, et il n'y a pas non plus de justification a posteriori. Pourquoi il n'y a pas de justification a posteriori, tout simplement parce que on ne peut pas donner un compte-rendu a priori de nos principes logiques centraux, puisqu'on raisonne toujours selon les principes en question, mais on ne peut pas non plus aller chercher les faits du monde qui seraient la justification de ces principes fondamentaux, puisque la sélection même de ces faits du monde serait une, requiert une actualisation de ces principes fondamentaux. Bogossian a donné encore un élément que je trouve et qui est celui qui m'a invité à réfléchir à l'aide de la présomption sur ce cas. Il dit qu'à cela ne tienne, il nous reste plus beaucoup de possibilités, soit une possibilité, disons, cartésienne, de dire que la règle est quelque chose qui s'auto-justifie ou qui est clair par soi, soit, une, après tout, pourquoi pas, une conception conventionnelle dans laquelle on va dire ben, c'est une convention. Le modus ponens, c'est une convention. Et là, on rencontre à nouveau un problème, puisqu'on va formuler la convention. Vous avez la convention qui est formulée ici. Là, je vais passer très vite, je vous demande simplement de me croire sur parole. Si P, c'est copier-coller l'article. Et puis, on va appliquer cette convention. Donc, vous voyez, ici, dans la diapo, j'ai tout simplement appliqué la convention. Au point B. Pour appliquer la convention, c'est faire un usage du modus ponens. Et en appliquant la convention, je vais obtenir une conclusion, mais quand je vais regarder le raisonnement, ou plutôt les différents mouvements qui sont requis pour l'application de cette convention, je vais voir que l'application de cette convention a la forme d'un modus ponens, puisque vous avez ici A, si A, alors B, B. C'est-à-dire que les trois lignes. L'application de la convention du modus ponens comme convention est un modus ponens, c'est-à-dire que c'est une convention qu'on ne peut pas appliquer sans utiliser le modus ponens. C'est une convention qui n'a donc pas les caractères d'une bonne convention. C'est un peu comme si on vous disait, voilà, on va, de toute façon, on va voter la loi travail, mais au moment où on va l'appliquer, il faudra déjà l'avoir votée, et donc, de toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'on ne l'appliquera jamais. Alors, voyez, maintenant, ce que je propose tout simplement, c'est de dire, on va dire que le modus ponens est une présomption. C'est une présomption, c'est-à-dire qu'on a un fait de base. Le fait de base, c'est un fait conjonctif. P est si P alors Q. Et le présumé, c'est Q. Alors peut-être je pourrais vous laisser là, vous laisser méditer sur cette proposition. Je vais simplement développer un tout petit peu. Mon idée est la suivante. Si on veut avoir une chance de justifier le modus ponens, on doit le justifier comme on justifie la présomption de paternité. C'est-à-dire on doit inférer, selon le modus ponens, comme on doit supposer que le fils ou la fille naît durant le mariage, etc. Je pense que le caractère prescriptif est profondément de même nature. Pourquoi ? Parce que le caractère prescriptif porte exactement sur les inférences autorisées. Dans le cas de la présomption de paternité, les inférences sont des inférences matérielles, et la doctrine d'arrière-plan, c'est le droit de l'héritage. Dans le cas du modus ponens, les inférences autorisées sont des inférences formelles, et la doctrine d'arrière-plan est la logique elle-même. Alors, l'essentiel du travail que je voudrais faire, c'est de justifier et de défendre ce genre de position. Je n'ai pas le temps de le faire ici, mais de répondre aux objections qu'on peut faire. Je m'entraînerai peut-être deux objections principales. Première objection, dans le cas du modus ponens, on voit mal ce que serait la clause SNI, si nihil impediat. On n'a pas l'intuition que quand on utilise un modus ponens, on dit j'applique le modus ponens, sauf si quelque chose m'en empêche. La deuxième objection, c'est qu'on a l'intuition que la validité du modus ponens est quelque chose de beaucoup plus fort qu'une présomption. Autrement dit, je ne présume pas que la conclusion d'un modus ponens est vraie, lorsque les prémices sont vraies. Je sais qu'elle est vraie. C'est plus fort. Donc ça, c'est l'objection principale, c'est l'objection de la force épistémique. Alors, Pour ce qui concerne la première objection, sinil impediat, nous avons des cas où on a donné des contre-exemples au modus ponens. Et puisqu'on a donné des contre-exemples au modus ponens, puisqu'on a discuté beaucoup de ces cas de contre-exemples au modus ponens, ça signifie qu'au moins on a ouvert la possibilité que le modus ponens soit conçu à la manière de Quine, c'est-à-dire comme quelque chose qui est très 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 solide, mais révisable, parce que tout est révisable. Si vous acceptez cela, vous acceptez que le modus ponens peut être présenté avec une clause SNI. L'objection numéro 2, alors, est beaucoup plus sérieuse, évidemment, et plus délicate. Disons que, dans le cas d'une modus ponens, j'ai une métacroyance dont le contenu est à peu près ceci. Le transfert de garantie effectué par un modus ponens est extrêmement fort. C'est même le plus fort de tous ceux que je peux avoir. Alors que, dans le cas d'une présomption, non. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense que la présomption en droit a une force inférentielle très élevée quand elle est active. Elle a la force inférentielle maximale. Si elle est active, encore une fois. Et c'est peut-être le fait qu'elle puisse être désactivée qui nous donne l'impression du contraire. Une décision de justice prise sur la base d'une présomption n'a pas moins de force qu'une décision de justice prise sur un fait, sur la base d'un fait dûment établi. De même, une inférence sur la base d'un modus ponens complexe, par exemple un modus ponens dont la deuxième prémisse est elle-même conditionnelle, n'a pas moins de force si c'est un modus ponens qu'une conclusion établie sur la base d'un modus ponens simple. Autrement dit, nous avons une impression subjective de force épistémique que nous ne devons pas confondre avec cette force épistémique elle-même. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on adhère? D'où vient cette adhérence? Est-ce que c'est un sentiment épistémique, comme dit Joël Proust, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a un rôle épistémique? Et cette question est ouverte. Personne n'a encore donné la réponse à cette question. Donc, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, il y a dans l'objection de la force épistémique ce que j'appelle une position justificationniste, c'est-à-dire une position selon laquelle l'adhésion est une fonction de la justification. Lorsque je suis justifié à croire que P, alors j'adhère à P. Et par conséquent, si j'ai l'impression que cette justification produit une adhésion plus faible, alors je viens douter de cette justification. Mais peut-être que c'est tout cet ensemble-là qu'il faut essayer de déconstruire, et peut-être faut-il mettre en question le justificationnisme. C'est pourquoi, dans cette dernière diapo, j'ai proposé une formulation du justificationnisme comme étant, à mon sens, quelque chose qui doit faire l'objet d'un débat. Le sujet S adhère au contenu de P, si et seulement si, il existe une justification J pour P, J est active en S, et J est plus forte que les justifications de non-P qui sont également actives en S. Je ne crois pas personnellement que le justificationnisme soit une position descriptive acceptable. C'est-à-dire, je ne crois pas que le justificationnisme décrive nos comportements doxastiques, c'est-à-dire que nous n'adhérons pas en fonction de nos justifications. Ce que le justificationnisme décrit, ce sont les situations épistémiques idéales, c'est-à-dire les situations que nous devons essayer de favoriser quand nous avons, par exemple, des choix collectifs à faire, c'est-à-dire les situations dans lesquelles l'adhésion doxastique et la justification sont en quelque sorte, agissent de concert. Alors, bon, il y a de toute façon quelque chose qui demeure difficile dans cette position. J'en conviens tout à fait. Et ce quelque chose qui demeure difficile, c'est qu'il y a dans la croyance que occupée, quelque chose qui nous semble toujours déborder de la présomption. Peut-être que, comment dire, vous savez que Ronan Farrow est le fils de Mia Farrow et de Woody Allen, et vous savez peut-être qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Frank Sinatra. Et que Mia Farrow elle-même a dit, c'est peut-être le fils de Frank Sinatra. Vous voyez bien que si nous discutons de la paternité éventuelle de Woody Allen ou de Frank Sinatra, nous n'avons pas de raison de faire valoir qu'il y a une règle qui nous dit qu'il y a une présomption de paternité légitime. Et néanmoins, si Ronan Farrow était amené à hériter, eh bien, on ferait valoir. Et peut-être héritera-t-il de Woody Allen, même si tout le monde est absolument persuadé dans la presse spécialisée qu'il n'est pas le fils de Woody Allen. C'est cette situation dans laquelle nous avons peut-être à nous déprendre de nos adhésions dans un sens de premier niveau au profit d'une adhésion de niveau élevé qui elle-même est rendue possible par une situation épistémique sophistiquée qui est réalisée par le débat scientifique, par le débat institutionnel, par la science elle-même dans son organisation. C'est cette situation-là qui me paraît intéressante et qu'il faut, à mon sens, que la philosophie doit essayer de thématiser. Et c'est cette situation que Leibniz n'a cessé de faire valoir contre le cartésianisme. Je vous remercie.